Je pense que c'est tout pour l'instant. Donc, on va prier et puis on va commencer notre étude de ce matin en espérant. Si vous entendez battre les mesures, ce n'est pas moi qui tape du pied, c'est la demoiselle qui fait du bruit. Donc, on va juste prier et après ça, on va lire le texte pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette semaine où tu nous as parlé, où tu nous as instruits. Et tu nous as permis, Seigneur, d'étudier des choses qu'on évite parfois d'aborder. La question de la mort, la question, Seigneur, du départ et de la fin de vie. Mais merci, Seigneur, de ce que tu nous as permis d'aborder ces choses avec l'éclairage de ta parole et avec ce défi qui nous est lancé de bien courir notre course et de bien terminer notre course. Ce matin, Seigneur, on termine cette série d'enseignements et on demande encore une fois, comme tu l'as fait tout au long de cette semaine, de nous guider, de nous inspirer, de nous parler et de nous permettre, Seigneur, de saisir ta pensée. Merci car tu prends soin de nous. Et merci car tu nous donnes de toute éternité, tu prépares, mais tu nous donnes pour notre temps d'aujourd'hui les mots, les paroles, les enseignements que nous avons besoin. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur et sur mon frère, sur moi-même aussi, afin que notre compréhension soit augmentée quant à ta parole, que notre capacité à saisir tes propos soit augmentée, afin, Seigneur, que ta parole devienne une réalité et une ferme assurance dans notre vie. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère, et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, le texte de cette semaine, dans 2 Timothée 4, le verset 6 et 7, qui nous disent « Car pour moi, je sers déjà de libation. » Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Je répète, car pour moi je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Je ne ferai pas le résumé de ce qui a été vu cette semaine parce que assurément, on va le faire plus tôt ce soir lorsqu'on va prendre du temps dans la prière. On va revoir un peu toutes les notions qui ont été partagées cette semaine. Donc, on va se limiter ce matin à cette dernière phrase que Paul va mentionner dans ce texte que nous venons de lire. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Deux termes grecs qui sont importants ici, le terme garder et le terme foi. Le terme garder, tereo, T-E-R-E-O, je répète, T-E-R-E-O, et le terme foi, le terme pistis, P-I-S-T-I-S, P-I-S-T-I-S. Alors, pour ceux qui sont en train de prendre des notes, vous avez les deux termes importants pour aujourd'hui dans leur version grecque. Comme vous savez, chacun des mots grecs a aussi des connotations. Très souvent, lorsqu'on fait l'exercice d'une traduction des textes grecs vers le français ou pour l'Ancien Testament, du texte hébraïque vers le français, on essaie de prendre les interprétations ou les traductions les plus proches de ce que le terme original pouvait signifier. Et parfois, l'utilisation d'un seul mot n'est pas tout à fait un juste exercice. Voilà pourquoi il est intéressant de partager les différentes variantes ou les différentes connotations, donc les différentes interprétations qu'on pourrait avoir d'un même mot grec. Lorsqu'on dit, par exemple, le terme « aimer », lorsqu'on aime une chose, ben, il y a différentes intensités d'amour On n'aime pas une pomme comme on aime son enfant ou comme on aime son épouse. Voilà pourquoi même en grec, on va avoir cinq ou six mots différents pour un seul terme en français d'amour, mais en grec, on va avoir une déclinaison de quelques termes pour mieux spécifier la pensée de celui qui parle ou de celui qui écrit. Et lorsqu'on parle de téréo et lorsqu'on parle de pistis, donc de garder, ou de la foi, les termes importants pour aujourd'hui, on a aussi quelques déclinaisons de mots et de pensées qu'on se doit d'aborder. Alors, commençons par garder. Le verbe garder, donc j'ai dit tout à l'heure en grec, téréo, T-E-R-E-O. Le premier sens que garder veut dire ou prend, c'est le sens de prendre soin de sa foi. Comme lorsqu'on gardait des brebis, on prenait soin des brebis, on protégeait les brebis. C'est un peu le même sens que Paul va utiliser ici lorsqu'il va parler de garder la foi. Il va dire de prendre soin de sa foi. Prendre soin d'une chose, c'est cultiver une chose. On dit de prendre soin d'un jardin, mais quand on prend soin d'un jardin, non seulement on travaille la terre, non seulement on plante la semence appropriée pour le type de terre qu'on a, pour le type de climat qui est le nôtre. On ne plante pas au Québec des bananiers à l'extérieur. Je sais qu'ils se vendent des bananiers décoratifs qu'on peut faire pousser à l'intérieur et qui donnent des mini-bananes un peu partout, mais dans une comme une plante d'intérieur. Mais si on voulait planter un bananier à l'extérieur, on sait que ce bananier mourrait. Au même titre, si on implantait des arbres dits nordiques dans un climat chaud, ben ces arbres-là ne pourraient pas pousser et mourraient aussi. Donc il y a plusieurs traitements qu'on apporte à notre jardin ou à nos cultures lorsque nous plantons quelque chose et lorsque nous devenons des agriculteurs en herbe, des agriculteurs urbains ou ruraux, mais on prend soin de notre jardin, de notre potager. Je sais que la sœur Rosie nous regarde ce matin et je sais que tout au long de l'été, elle nous a dit comment son jardin poussait et le travail qui était le sien. Je pense qu'à un moment donné, elle a même planté des haricots et elle était contente de comment la journée s'était passée. Ben, notre sœur, lorsqu'elle plante les haricots, ben, après ça, elle a besoin de les arroser. Elle a besoin probablement de retirer les mauvaises herbes quand celles-ci apparaissent. Elle a besoin peut-être de fertiliser la terre pour permettre une meilleure croissance. Donc ceux qui ont un jardin savent que c'est un travail quotidien. Mon grand-père avait un énorme jardin, mais en fait mes deux grands-parents avaient d'énormes jardins. Qui était bien plus grand que ce que deux personnes pouvaient manger, mais c'était une activité de tous les jours pendant 4 ou 5 mois, voire 6 mois de l'année. Donc préparer la terre, ensemencer, arroser, cercler, faire tout le travail nécessaire jusqu'à la récolte. Et même après la récolte, il faut préparer la terre pour le temps de gestation ou le temps d'hiver où il n'y aura plus rien qui pousse. Donc lorsque Paul parle de garder la foi, il dit aussi de cultiver cette foi. On la cultive en prenant du temps auprès de Dieu. On garde cette foi en refusant les discours mensongers de l'ennemi, en protégeant nos pensées, en se fixant dans la parole de Dieu. Donc il y a tout un tas de moyens qu'on doit mettre de l'avant pour prendre soin de notre foi. De surcroît à cela, on parle aussi de maintenir la foi. De surcroît à prendre soin de la foi, garder veut aussi dire maintenir sa foi. Et maintenir sa foi, c'est dans le sens maintenir sa foi en dépit des circonstances. Durant toute cette semaine, on a vu que Paul était en train d'annoncer sa mort, une mort qui va être violente, puisque c'est une mise à mort, une condamnation à mort qui a été lancée sur lui, et il s'en va vers Rome en sachant qu'il va être exécuté dans les semaines, dans les mois ou dans les temps qui arrivent. Et Paul vient de passer un certain temps dans les cachots, dans les prisons, avec les liens aux mains et aux pieds, et il est en train de dire que malgré tout cela, il a maintenu sa foi. C'est un peu le défi qui est le nôtre. Lorsque les épreuves viennent, lorsque les moments difficiles viennent, comment va en ressortir notre foi? Je me rappelle à un moment donné, pendant le temps où je subissais la chimiothérapie, Daphné tenait au courant ses amis aussi, Facebook, de ce qui se passait avec moi. Et je sais qu'à un moment donné, un de ses contacts lui a écrit en sachant que j'étais pasteur, en sachant que j'étais un croyant, que Daphné elle-même était croyante. Et elle posait la question à savoir, mais est-ce que la foi de Florent n'a pas été affectée par la maladie? Et la réponse pour nous, c'était, ben si la foi était utile lorsque tout allait bien, la foi prend toute sa valeur et toute son importance maintenant que les temps sont difficiles. Donc maintenir sa foi en dépit de la chimiothérapie, maintenir sa foi en dépit, pour le cas de Paul, de la mort imminente qui le guette. Mais on parlait cette semaine aussi du deuil qui survient dans nos vies lorsqu'un proche est pris par le Seigneur et amené dans l'éternité. Alors comment ma foi se comporte-t-elle lorsque je passe par le deuil? Comment ma foi résiste-t-elle lorsque je passe par un déchirement émotionnel? Est-ce qu'elle se maintient en forme ou cette foi était déjà fragilisée et va venir à agoniser dans les moments difficiles? Donc Paul parlait de prendre soin de sa foi. Donc il disait, moi j'ai pris soin de ma foi. Il dit, j'ai maintenu ma foi en dépit de toutes les circonstances. Garder la foi avait aussi un sens d'exposition, afficher sa foi. Et on s'entend pour dire que Paul, même dans les liens, même à travers les brimades qu'il a subies, à travers l'emprisonnement qu'il connaissait, Paul a continué à afficher sa foi. Dans Philippiens au chapitre 1, on a vu au courant de la semaine ce passage où Paul va dire « Tout ce qui m'est arrivé, en fait, a plus servi à l'avancement du royaume qu'autre chose, et même les frères en la foi en sont sortis fortifiés à cause de ma réaction par rapport à ce qui se passait et à comment j'ai affiché ma foi. » Donc pour nous aussi, quand on passe par les moments difficiles, comment affichons-nous notre foi? Est-ce que nous commençons à nous taire? Est-ce que nous commençons à délaisser nos acquis, délaisser ce qu'on appelait autrefois une certitude qui était notre foi en Dieu, où on affiche davantage? Je ne pourrais pas vous dire ce qui a motivé le plus ma réaction lorsque je suis tombé malade, mais je sais que j'avais la rage de parler de Jésus. Je me disais, s'il me reste simplement quelques temps, mais je veux m'assurer d'être utile. Je me disais aussi, je vais contrecarrer les plans de la maladie et du cancer s'il pensait me faire défaillir et faire en sorte que je ne parle plus, que je me taise et que je sombre dans le désarroi et dans la déprime. Ça ne sera pas le cas. Et je parlais partout, mais partout, de Jésus. J'étais en chimiothérapie, je parlais aux infirmières, les infirmières elles-mêmes venaient me voir pour avoir un temps de prière pour que je puisse prendre des sujets, pour que je puisse par la suite prier pour leurs besoins personnels. Elles me demandaient parfois d'aller me promener dans la salle pour essayer d'encourager les autres patients. Je me rappelle d'un département, le département de gastro-entérologie, lorsqu'on passait les caméras dans l'œsophage et puis dans l'estomac pour voir où en était la tumeur. Mais il y avait deux infirmières qui étaient là, une qui enseigne l'école du dimanche dans une école dans une église protestante et une qui enseigne la catéchèse dans une église catholique. Et les deux me saluaient avec de grosses bises, beaucoup d'affection, et elles expliquaient aux autres patients pourquoi elles avaient cette réaction avec moi, en disant que j'étais chrétien et que les choses se passaient super bien et tout ça. Donc elles-mêmes étaient poussées à parler de Jésus à cause de l'affichage de ma foi dans ces moments-là. Donc Paul a cette même pensée de prendre soin de sa foi, de maintenir sa foi en dépit des choses et des circonstances qui sont plus difficiles, et d'afficher sa foi même dans les temps difficiles. Paul va avoir cette phrase magistrale en disant d'insister en toute occasion favorable ou non. Et enfin, toujours dans ce sens d'afficher sa foi, utiliser sa foi. Utiliser sa foi, ça veut dire quoi? Utiliser sa foi, ça veut dire faire confiance à Dieu, en dépit des circonstances, en dépit du deuil qui peut nous affliger, en dépit de la mort qui s'avance vers nous, en dépit de la maladie qu'on peut traverser, en dépit des circonstances plus difficiles, une perte d'emploi, une séparation, un bris dans des situations d'amitié ou autres, les choses qui viennent nous affecter, malgré tout cela, nous devons apprendre à utiliser notre foi. Donc garder la foi, pour Paul, c'était prendre soin de sa foi, c'était la cultiver, c'était maintenir sa foi, donc en dépit des circonstances, c'était afficher, continuer à témoigner de sa foi, et aussi utiliser sa foi, continuer à faire confiance à Dieu. Dans tes circonstances difficiles, dans les moments plus ardus que tu peux traverser, où se positionne ta foi? Est-ce que tu continues à faire confiance à Dieu ou tu commences à avoir des doutes? Combien souvent vont tomber dans le piège en disant: Ah, mais Seigneur, je pensais que tu m'aimais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Seigneur, je pensais que tu pensais justement à moi. Pourquoi m'as-tu oublié? Et la parole de Dieu nous cite des exemples comme ça. Dans l'Ancien Testament, dans un des prophètes, à un moment donné, il s'adresse à Israël, qu'il va nommer Jacob, et il va dire: Jacob, pourquoi dis-tu que tu as été oublié? Pourquoi dis-tu, Éternel, tu m'as oublié, tu n'as pas pris soin de mes droits? Et très souvent, nous, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on peut avoir aussi tendance à avoir ce même type de langage, ce même type de raisonnement, ce même type de réaction. Paul va dire: Moi, en dépit de toute chose, je continue à faire confiance à Dieu. Voyez, la foi n'est pas que les choses surviennent après qu'on ait prié. Les gens ont cette idée fausse que la foi, c'est je prie et il se passe une chose. La foi qui est puissante, et elle nous est expliquée très clairement dans Hébreux au chapitre 11. On a eu l'occasion, il y a 3 ou 4 ans, je crois, de faire une période de jeûne de 40 jours où on expliquait ce qui se passait dans ce chapitre 11 d'Hébreux. On avait intitulé cette série Ce que eux ont compris que nous avons oublié, en parlant de ces héros de la foi. Et on se rendait compte que dans chacune des circonstances qui sont nommées dans ce chapitre 11, ce ne sont pas des circonstances d'allégresse. Ce ne sont pas nécessairement des circonstances qui, à la première vue humaine ou à la première lecture humaine, c'est des circonstances positives, mais c'est des moments difficiles. Et malgré tout, dans ces moments difficiles, ces gens ont décidé de faire confiance à Dieu. Le paroxysme de ce chapitre, c'est le moment où l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire qu'il y a des gens qui ont refusé la délivrance de ce côté-ci de l'éternité, sachant qu'une gloire et une récompense plus grande leur étaient attitrées. Il y a des gens qui ont perdu, on nous dit, leur mari, leurs enfants, pour la cause de Christ, mais qui ont refusé d'être délivrés en prévision de la gloire qui venait plus tard. Donc, faire confiance à Dieu, avoir la foi, ce n'est pas que la réponse à ma prière arrive de façon instantanée ou arrive coup sur coup, mais c'est de continuer à faire confiance à Dieu malgré la situation. Voilà pourquoi le matin qui a suivi le jour où on m'a donné mon diagnostic de cancer, ma prière a été simple pour Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, c'est correct. Que tu m'amènes à la maison, que tu me gardes ici, c'est correct. Et j'ai tenu à dire à Dieu, Seigneur, hier je prêchais encore que tu es bon, je le dis encore aujourd'hui, tu es bon. Donc ça, c'est faire confiance à Dieu en dépit des circonstances. Et je ne suis pas ici en train de faire l'éloge de moi-même, je vous dis juste comment la foi a été utile et a été un rempart pour moi pendant les moments difficiles. Garder la foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi? Le terme pistis. Trois déclinaisons de la foi qui sont mentionnées comme synonymes ou comme interprétations du terme pistis. Premièrement, une conviction de ce qui est vrai. Une conviction, c'est quelque chose qui est fermement ancré en toi. Je crois cela ad vitam aeternam. Lorsqu'on parle de conviction, on ne parle pas « je pense que » ou « j'ai le sentiment que ». Non, la conviction va beaucoup plus loin. C'est comme, et la Bible va le dire dans Hébreux 11, le verset 1 et 2, ils vont nous dire que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est une conviction. Et dans la pensée de l'auteur et dans la force du terme utilisé, c'est quelque chose qui est immobile, qui ne peut pas être déplacé, inamovible, qui ne peut pas être déplacé, qui ne peut pas être diminué. C'est quelque chose qui est fermement ancré en nous et qui est solide et qui est puissant. Donc une ferme conviction, premièrement, de ce qui est vrai. Avoir reconnu quelque chose comme la vérité. Et c'est une conversation que j'ai eue avec plusieurs personnes dernièrement qui ont, à un moment donné, délaissé le Seigneur et qui se retrouvent dans des situations précaires par la suite. Et je ne dis pas qu'ils tombent dans une situation précaire nécessairement juste parce qu'ils ont quitté le Seigneur. Parfois, c'est des erreurs personnelles, des décisions personnelles qui amène ces gens dans des situations difficiles. Mais ce que je leur dis, c'est que ton âme a reconnu ce qui était vrai. Tu sais la vérité, tu connais le vrai chemin et l'unique chemin. Et tant que tu ne reviens pas à cette vérité que tu avais autrefois déclarée, il va y avoir un combat à l'intérieur de toi. Il va y avoir un vide à l'intérieur de toi, parce que tu es en train de lutter contre ce que ton âme et ton esprit t'ont déjà dit et que tu as déjà déclaré comme étant vrai. Donc une conviction de ce qui est vrai. Une fois que tu as déclaré une chose qui est vraie, tu as de la misère à te rétracter par la suite et à dire non, c'est faux, parce que tu as connu, tu as expérimenté. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus va dire à ses disciples, est-ce que vous ne voulez pas quitter comme les autres? Paul va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Christ, que tu es le Saint de Dieu. Donc il dit, nous, on l'a expérimenté, et il serait futile et peu utile, et ça serait se mentir à soi-même que de s'éloigner de toi parce que nous avons cru et nous avons connu la vérité. Donc, conviction de ce qui est vrai, conviction de ce qui est exact, de ce qui est parfait. Lorsque tu as connu Christ, lorsque tu t'es approché de lui, lorsque tu l'as reconnu comme effectivement le Seigneur et le Sauveur, tu sais aussi qu'il est parfait et que ses voies sont parfaites, même si elles ne cadrent pas avec ta volonté, mais tu sais foncièrement que sa volonté est parfaite. Voilà pourquoi lorsque je m'oppose au temps de Dieu, lorsque je m'oppose au plan de Dieu, lorsque je m'oppose à la volonté de Dieu, je sais de façon intrinsèque à l'intérieur de moi-même que ce que je fais est mauvais. Lorsque je n'accepte pas que Dieu décide de faire telle ou telle chose, lorsque je n'accepte pas que Dieu ait refusé d'obtempérer par rapport à mes demandes, je sais foncièrement que je suis en train de m'opposer à des voies qui sont parfaites. Voie, V-O-I-E-S, le chemin, à un chemin qui est parfait. Donc, une conviction de ce qui est vrai, une conviction de ce qui est exact et parfait. Et finalement, une conviction de ce qui est juste. La foi, c'est une conviction de ce qui est bien et de ce qui est droit. Lorsque je viens à Christ, effectivement, sa parole me révèle ce qu'il approuve et ce qu'il désapprouve. Sa parole me dit ce qui est péché, de ce que Dieu peut approuver et bénir. Sa parole m'éclaire par rapport à mon chemin et par rapport à ma propre conviction. Et on ne peut pas jouer à l'autruche à ce moment-là. C'est tout à fait futile de s'amuser à cela, de dire « Ah, je ne savais pas ou je ne comprenais pas ou j'avais pas saisi. » Mais foncièrement, toi et moi, on sait que l'on connaît si notre voie est en train de dérailler, si on est en train de s'éloigner de Dieu. Et plus je le fais, plus je me sens mal à l'intérieur de moi parce que je sais de toute manière que je ne suis pas en accord avec le plan parfait de Dieu. Je sais que ce que je fais, je suis en train d'enfreindre les règles, les préceptes et la pensée de Dieu. Et si j'ai reconnu que Dieu est exact, que Dieu est parfait, ça ne peut pas me laisser en paix. Voilà pourquoi plusieurs des personnes qui vont délaisser le Seigneur vont rentrer dans une période sombre, parce qu'ils s'éloignent de la lumière comme premier point, mais aussi parce qu'ils vont à l'encontre de ce qu'ils savent être déjà la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la foi doit être cultivée, qu'on doit prendre soin de notre foi, qu'on doit maintenir notre foi en dépit des circonstances qui sont régulièrement difficiles. On doit afficher notre foi en dépit des circonstances et qu'on doit utiliser notre foi, donc faire confiance à Dieu, continuer à faire confiance à Dieu, faire encore plus confiance à Dieu dans les moments même difficiles. Et enfin, on a vu ce qu'était la foi. La foi, une conviction de ce qui est vrai, avoir reconnu, avoir connu et avoir cru que Christ est effectivement le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs et le seul Sauveur de l'humanité. Avoir la conviction que ce qu'il fait, ce que Dieu fait, est parfait. Et lui faire confiance dans cette perfection de ses décisions et dans cette perfection de ses actions. Et enfin, savoir que ce qu'il fait et ce qu'il demande et ce qu'il requiert de moi est juste. Et savoir reconnaître le bien du mal, ce que Dieu approuve, de ce qu'il désapprouve, de ce que Dieu peut bénir, de ce qu'il condamne, et de vivre et de prendre des décisions en conséquence. Alors je prie que actuellement, peu importe quelles soient les circonstances que tu puisses traverser, que tu puisses garder la foi, que tu veilles à entretenir cette foi, à la cultiver, à la faire croître, que tu maintiennes cette foi forte, ferme, véritable, malgré les circonstances qui peuvent être les tiennes. Et si, effectivement, cette foi serait venue à diminuer, je t'invite à faire confiance à Dieu. Je t'invite à revenir à ce que tu avais pris comme décision autrefois, de dépendre de lui, de lui faire confiance, quelles que seraient les circonstances que tu traverserais. Cette semaine, on a parlé de la mort, oui, on a parlé de ce rendez-vous avec l'éternité auquel chacun d'entre nous va être confronté. On a parlé de se préparer à cette rencontre avec Dieu, à se préparer à ce passage vers l'éternité. Alors je prie que les enseignements de cette semaine t'aient parlé, t'aient amené à être confronté avec ta propre réalité, avec ton propre rendez-vous avec Dieu et à prendre les mesures en conséquence pour préparer cette allée vers l'éternité. Et j'espère que les partages qu'on a eus cette semaine t'auront béni et t'aura servi dans ta décision et dans ton engagement avec le Seigneur. Alors permettez-moi de prier un peu avec vous et puis par la suite on donne les dernières recommandations pour ce week-end. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci de veiller sur nous, de prendre soin de nous. Et à l'instar de ce père dont l'enfant était malade et qui est venu demander grâce auprès de toi, tu lui as dit que s'il croyait, tout était possible. Et il t'a répondu, « Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma foi. » Et Seigneur, je te prie pour ma propre foi. Je prie, Seigneur, qu'elle puisse se fortifier. Que ma foi, Seigneur, soit marquée par une dépendance totale, mais tout à fait délibérée de ma part envers toi. Seigneur, j'ai expérimenté comment cette foi était primordiale, importante, dans des moments difficiles. Ça a été ce rocher sur lequel je me suis ancré dans des moments difficiles. Et tu n'as jamais fait défaut à ces occasions où j'ai appelé, j'ai crié vers toi. Merci Seigneur d'avoir été à mes côtés. Mais je prie aussi, Seigneur, pour ma sœur et mon frère, qui peut-être seraient dans un temps où ils se seraient éloignés de toi, où ils t'auraient tourné dos. Je sais, Seigneur, que même lorsqu'on te tourne le dos, tu continues à appeler nos noms. Tu continues à frapper à la porte de nos cœurs. Et je prie, Seigneur, que si ma sœur m'entend ce matin et qu'effectivement la porte a été fermée, je prie, Seigneur, que ses oreilles soient encore ouvertes pour entendre ta voix. Afin, Seigneur, que ma sœur ou mon frère qui serait dans une telle situation puisse retourner vers ce qu'ils avaient reconnu comme étant vrai. La seule, l'unique vérité, immuable, qui dure d'éternité en éternité. Dieu est amour. Dieu prend soin de nous. Dieu a vu notre condition de pécheur et Dieu a suscité le seul sauveur qui pouvait effectivement amener l'humanité au salut à travers la mort et la résurrection de Christ Jésus pour nous. Alors je prie, Seigneur, que mon frère et ma sœur reviennent à cette vérité. Je prie, Seigneur, qu'ils s'ancrent sur cette vérité. Et que tu puisses, Seigneur, les vivifier et aviver leur foi. Merci d'avoir entendu cette prière et d'y répondre. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, juste faire un comeback sur les personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Je monte un peu. Vous êtes encore une fois bien nombreux ce matin. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Merci. Donc, la sœur Louise et le frère Michel, bonjour. La sœur Denise Gaudreau de Montagne, bonjour. De Montagne-Saint-Eustache, cette belle région. Dieu vous bénisse. Michel, bonjour. Daniel, Dieu te bénisse. Farley, Marie-André, bonjour. Chanel, bonjour. Jocelyne, Jacques, bonjour, j'espère que Jacques, ça va mieux, que les tests se sont bien passés. Soyez bénis. Bonjour à Melida Gamboa. Bonjour à Been There, Done That. Bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Diana. Bonjour à qui? Bonjour à Soraya, aux enfants et à Benjamin. Bonjour à ma belle-sœur et à ma belle-mère. Et encore une fois, merci à tous pour vos souhaits de condoléances en cette période et pour vos prières pour la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour à Claudie, ma tante, qui est là, la sœur, la jeune sœur de ma maman, qui nous regarde depuis la France. Bonjour Claudie. Bonjour à son époux Jean. Bonjour à Argelia, bonjour à Gaël. Gaël, il faut t'inscrire pour dimanche. Bonjour à Sylvia. Bonjour à qui d'autre? Bonjour à Lynn. On a parlé de toi tout à l'heure. Je ne savais pas que Lucie était ta maman. On me l'a appris cette semaine. Que Dieu te bénisse à toi aussi. Bonjour à Suze. Bonjour à Marie-Huguette. Qui d'autre? Bonjour à la sœur Rosanie. Bonjour à Andrés, Samantha. Et je pense que c'est tout pour ce matin. Donc, simplement vous rappeler, ce soir à 19h, on a notre temps de prière et d'intercession. Ce sera le temps de présenter vos requêtes. Donc, on sera là à partir de 19h. Et puis, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche pour assister de façon présentielle, donc en étant présent sur place. Les inscriptions se complètent aujourd'hui. Donc, on vous demande d'appeler dès maintenant à l'église pour vous inscrire ou d'écrire un courriel au secrétariat de l'église. Donc, je vous rappelle les numéros de téléphone dans le 514-273-8295 et le courriel de l'église, très simple, secrétariat EAJC, EAJC pour Église des Apôtres de Jésus-Christ. Donc, secrétariat EAJC, pas d'accent, pas de, en un seul mot. À commercial@gmail.com. Je répète, secrétariat EAJC@gmail.com. Et là, vous nous dites votre nom, votre numéro de téléphone, votre courriel, et vous nous indiquez le nom des personnes qui viendront avec vous. Les seuls critères, vous devez être âgé de plus de 12 ans, et puis vous ne devez pas présenter de signes grippaux. C'est tout. À part ça, vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc, on espère vous voir. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, c'est encore le temps. Aujourd'hui, c'est ma mère qui va vous contacter pour confirmer vos inscriptions. La plupart des autres ont déjà été contactés. Elle a une petite liste à contacter aujourd'hui. Donc, ceux qui n'ont pas été inscrits, inscrivez-vous dès maintenant. Et puis, on aimerait être bien nombreux dimanche pour ce culte. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. On se retrouve à 19h pour notre temps de prière et d'intercession. Et puis, inscrivez-vous et gardez la foi. Bonne journée à tous.